Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse et la tribune. Au programme, comprendre notre fascination pour les corps musclés, gérer la santé en s'appuyant sur la science et une vraie riposte à la mésinformation. Bonne écoute.
Comprendre notre fascination pour les corps musclés, un texte d'Olivia Lévy, paru le 5 février 2023 dans La Presse. Dans La fabrique du muscle, paru aux éditions L'Échappée, l'auteur Guillaume Vaillet, professeur de sciences économiques à l'Université Grenoble-Alpes, tente de comprendre notre fascination pour les corps musclés. Lui-même adepte de culturisme, il explique que le corps est devenu une façon de maîtriser son existence dans notre société remplie d'incertitudes et de vulnérabilités. Entrevue. D'où vient notre fascination pour les corps musclés? Il y a plusieurs facteurs historiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on accorde une attention particulière au corps et nous avons un rapport à la santé qui est très présent. Il y a également le souci de notre apparence, l'image de soi et la valorisation de l'individu. L'État se désengage, chaque individu doit se responsabiliser et ça renforce l'idée qu'il faut se distinguer pour exister. On veut donner un sens à sa vie. Alors, on va investir dans son corps et le muscler. C'est une façon de se positionner dans la société, de revendiquer une différence. L'idée de la construction de l'identité personnelle passe par la réalisation de soi. Plus récemment, avec les réseaux sociaux, l'image qu'on véhicule, celui d'un corps musclé et très visible, renforce cette croyance que c'est à travers ce corps qu'on va avoir une identité. Est-ce qu'il va nous inciter à fabriquer notre corps? Le muscle nous fascine et c'est pour cette raison que sa fabrication est recherchée. Qu'est-ce que symbolise le muscle? Historiquement, le muscle a toujours été identifié aux hommes. Lors de l'apparition des sports modernes, deuxième partie du 19e siècle, le capitalisme va renforcer la croyance que le muscle est le symbole de la puissance et de la performance. Dans l'imaginaire, le muscle est masculin. On le voit dans les films, les bandes dessinées, les dessins animés. Le muscle fait aussi référence à une fonction de productivité et de résistance dans un monde où on a besoin de faire face à des problèmes et à des vulnérabilités. Au fil du temps, il s'est dégenré. Le muscle est aussi recherché par les femmes comme mesure de résistance face à l'imprévu. Le muscle est aussi esthétique. Les femmes vont globalement se concentrer sur le bas du corps, les cuisses et fessiers, comme Kim Kardashian, alors que chez les hommes, les muscles prioritaires sont les biceps et les pectoraux. Le muscle véhicule aussi l'image de contrôle de soi, d'une personne qui prend soin d'elle, qui est soucieuse d'une certaine exigence vis-à-vis d'elle-même, des qualités qui sont aussi valorisées dans le monde du travail d'aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer ce que vous appelez le capitalisme des vulnérabilités? Ces vulnérabilités sont produites par le système économique. Elles peuvent être liées au travail, aux crises financières, mais aussi au sentiment d'insécurité, à la santé, à l'environnement ou à l'identité de genre. Ces vulnérabilités s'accompagnent de différentes peurs, comme celle d'être malade ou de mourir. C'est pour cette raison que le corps sain, associé aux muscles, est vu comme un révélateur de performance économique et sociale. Un corps musclé est synonyme de productivité économique et renvoie à une image de performance, de maîtrise sur le monde, alors que nous avons parfois l'impression d'être dépossédés et de ne plus avoir de prise sur celui-ci. Fabriquer du muscle, c'est la volonté d'avoir le contrôle sur soi? Oui, c'est la volonté de maîtriser une destinée. Quand vous développez du muscle, vous allez le ressentir dans vos émotions. Vous êtes ancré sur terre, ce qui est très important dans une société incertaine et troublée. Vous avez un projet, un horaire, des sensations, des résultats visibles. C'est porteur pour l'individu. Muscler son corps, ce n'est pas perçu comme un loisir, mais comme un travail. Oui, on est dans une logique de travail. On est marqué par cet héritage de la culture protestante avec le travail comme source de dérivatif à l'angoisse et comme source de salut dans un monde incertain. On le retrouve dans le travail du muscle des individus parce qu'il nous construit et qu'il crée un cadre. Cette activité nous donne la sensation d'exister. Le travail va produire une certaine douleur qui est recherchée, car c'est à travers elle qu'on se transforme. Est-ce qu'on critique le fait de vouloir être musclé? On a eu longtemps en France cette opposition entre la pureté de l'esprit et cette obsession du corps mis en avant, comme si être intellectuel et être musclé n'étaient pas compatibles. En Amérique du Nord, la culture est différente. C'est perçu comme un indicateur d'une personne qui prend soin d'elle et qui a envie d'être productive. Il y a une vraie complémentarité. La musculation est critiquée quand elle est pratiquée à l'extrême, dans le bodybuilding. Arnold Schwarzenegger, Monsieur Univers. Le bodybuilding est moins en vogue car il apparaît comme trop statique et inadapté. Il y a cette critique d'être un sport qui ne sert à rien, car on se concentre sur la forme et non sur la fonction du muscle. On se dit, mais à quoi ça sert d'avoir les plus gros biceps du monde si on n'en fait rien? On dira à un joueur de hockey, de soccer ou de rugby que son corps musclé est superbe, car le muscle est en mouvement. Il sert à obtenir une meilleure performance et une meilleure endurance dans le sport. C'était « Comprendre notre fascination pour les corps musclés », un texte d'Olivia Lévy, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Que diriez-vous d'un médecin qui pratique sans se soucier de la science? D'un chirurgien ou d'un radiologiste qui prend des décisions sans se baser sur des données et des preuves scientifiques? Ce serait bien sûr inacceptable, voire dangereux. Pourtant, les réformes du réseau de la santé et des services sociaux ont été menées au cours des deux dernières décennies sans s'appuyer sur des bases rigoureuses établies par la recherche sur les services de santé. Rien d'étonnant alors de constater l'échec de ces réformes et ses conséquences néfastes sur l'accès à des services de qualité. La médecine s'appuie maintenant de plus en plus sur des données probantes obtenu à la suite de nombreuses études scientifiques menées de façon rigoureuse à travers le monde. D'abord, avant d'être financées, ces études font l'objet d'une évaluation indépendante par les pairs, les collègues chercheurs experts du même domaine, afin de s'assurer de la rigueur du projet. Une évaluation éthique minutieuse, voire parfois tatillonne, assure la sécurité et la probité de l'étude projetée avant de recruter des participants. L'expérimentation est ensuite menée en ayant soin d'éviter tout biais pouvant fausser les résultats. Puis, une nouvelle évaluation par les pairs survient lors de la publication des résultats. Comme la preuve scientifique ne peut s'appuyer sur une seule étude concluante, l'expérimentation doit être répétée par d'autres chercheurs sur d'autres populations pour confirmer les conclusions. Une analyse de plusieurs études, une méta-analyse ou une revue systématique permet de combiner les différentes expérimentations pour obtenir une preuve scientifique solide. Finalement, des comités d'experts traduisent ces preuves en recommandations ou guides de pratique clinique. C'est ce processus qui est à l'origine de l'utilisation des tests diagnostiques ou des traitements par le médecin. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine basée sur des preuves. Il existe tout un champ de recherche aussi rigoureux et systématique pour étudier l'organisation et la gestion des services de santé. Comme on s'adresse souvent à des populations et des systèmes, les méthodes de recherche sont différentes, mais la même rigueur y est appliquée, de la conception de l'étude jusqu'à sa publication et à l'examen combiné des expérimentations semblables pour obtenir une preuve solide. Cette science de l'administration de la santé est enseignée dans les universités. On y mène des travaux, financés par les organismes nationaux et internationaux de subvention, qui sont publiés dans des revues scientifiques dédiées. Les gestionnaires et dirigeants de notre réseau ont souvent été formés dans les programmes de ces universités. On y enseigne comment appuyer ces décisions et orientations sur des données probantes. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Informed Decision Making, ou les décisions éclairées par les données probantes. Comme le médecin, tout gestionnaire ou dirigeant devrait toujours baser ses décisions sur des preuves scientifiques. Les résultats d'une étude sur un médicament ou un test diagnostique peuvent être facilement transposés et appliqués à d'autres populations. Il n'en va pas de même pour la recherche sur les services de santé, où le contexte et la population visée peuvent être déterminants sur les résultats d'une intervention. C'est pourquoi il faut être plus prudent avant d'appliquer une intervention, pourtant efficace, à une autre population, dans un autre contexte. C'est ce qui explique qu'on parle davantage de décisions éclairées par les données probantes et non basées sur des données probantes comme en médecine. Il est désolant de constater que les réformes majeures des 20 dernières années n'ont pas été éclairées par des données probantes. Auparavant, une réforme était souvent précédée par un examen rigoureux au moyen d'une commission d'enquête ou d'un groupe de travail. Ainsi, les recommandations des commissions Castonguay, Rochon et Claire ont toutes été appuyées sur un examen rigoureux et exhaustif de la littérature scientifique pertinente. Il n'en fut pas de même lors des réformes Couillard en 2003 et Barrette en 2015. Des réformes majeures, concoctées par des ministres médecins qui n'ont pas appliqué la même rigueur scientifique à transformer le système de santé que celle qu'ils ont apprise et appliquée pour traiter les malades. La commission parlementaire chargée d'examiner la réforme Barrette a pourtant reçu des témoignages de plusieurs scientifiques venus démontrer que cette réforme n'aurait pas les impacts anticipés à la lumière des connaissances scientifiques. On les a ignorés avec le résultat que l'on connaît. On a préféré se baser sur des idées alléchantes, mais non éprouvées. Dans ce domaine, le cimetière scientifique des bonnes idées est vaste et, comme chercheur en ce domaine, j'y ai souvent contribué. Un exemple. Je souhaitais démontrer que des visites préventives par une infirmière formée auprès de personnes âgées à risque pouvaient permettre de détecter et d'intervenir précocement pour prévenir la perte d'autonomie. L'expérimentation que nous avons menée n'a pas démontré d'impact significatif d'un tel programme. Ce résultat a par la suite été reproduit dans d'autres pays avec les mêmes résultats. Ce qui avait l'apparence d'une bonne stratégie s'est donc avéré un mirage. Pourtant, ce genre de programme continue malgré tout d'être implanté dans plusieurs régions du monde avec des investissements en ressources humaines et financières considérables. On ne retrouve pas au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et dans les établissements de santé une culture de décision éclairée par des données probantes. Et pourtant, dans notre système public universel, on en a des données. Mais pour toutes sortes de raisons, on ne les utilise pas. Il n'y a plus d'équipe solide dédiée à l'évaluation et au développement au ministère et dans les établissements. Comment une entreprise avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars peut-elle se développer et améliorer ses services sans un secteur de recherche et développement? La R&D, recherche et développement, comme on l'appelle dans le secteur privé, est une condition essentielle à la survie d'une organisation et à son adaptation constante aux besoins des clients ou des usagers. Dans les établissements, on applique bien souvent des méthodes et programmes à la mode, prônés par des consultants rémunérés grassement. La fameuse méthode Lean ou Toyota en est un bon exemple. Bien qu'implantée largement dans le réseau à grands frais, les preuves scientifiques de son efficacité en santé sont plutôt faibles. Lorsque de nouveaux services, programmes ou politiques sont implantés, il n'y a aucun souci d'évaluer leur effet autrement qu'en utilisant quelques indicateurs, liés beaucoup plus au processus. Exemple, nombre de services offerts, temps d'attente, qu'aux résultats. Exemple, nombre de vies sauvées, amélioration de l'état de santé, satisfaction des patients. C'est d'ailleurs le jugement porté par le vérificateur général et le commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, lors de leur récent rapport. Les quelques études scientifiques sur la réforme de 2003 et certains programmes gouvernementaux, groupes de médecine de famille, guichets d'accès, par exemple, sont plutôt réalisés par des chercheurs universitaires avec un financement indépendant. Les effets désastreux des dernières réformes devraient nous alerter quant à la nécessité d'appuyer des décisions de gestion ou de réforme sur des données probantes. Toute nouvelle politique, programme ou service devrait obligatoirement faire l'objet d'une évaluation rigoureuse quant à sa mise en œuvre et à son impact sur la santé de la population. Nous ne pouvons plus diriger et gérer un système de santé sur la base de lubies colportées par des gourous mal avisés. La science de l'administration des services de santé existe. Il faut en profiter pour utiliser judicieusement les ressources limitées de l'État au plus grand bénéfice de la population. C'était « Gérer la santé en s'appuyant sur la science », une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune.
Une vraie riposte à la mésinformation. Un texte de Philippe Mercure, paru le 5 février 2023 dans La Presse. Si quelqu'un larguait une bombe sur le Canada qui tuait 2800 personnes, envoyait 13 000 Canadiens à l'hôpital et causait des dommages de 300 millions de dollars, le pays prendrait certainement les choses au sérieux et préparerait une riposte digne de ce nom. Or, une telle bombe est tombée. Elle s'appelle la mésinformation. Les chiffres mentionnés plus haut proviennent d'un rapport d'experts du Conseil des Académies canadiennes qui se sont penchés sur les conséquences de l'hésitation vaccinale pendant 9 mois de la pandémie entre mars et novembre 2021. À ce moment, les vaccins contre la COVID-19 étaient offerts au pays. Mais les fausses informations qui circulaient ont empêché ou retardé la vaccination de plus de 2 millions de Canadiens. Résultat, des hospitalisations, des morts, des coûts pour le système de santé qui se comptent en centaines de millions de dollars. Il est rare que l'on réussisse à quantifier ainsi les impacts de la mésinformation, un terme qui englobe autant les fausses informations propagées délibérément que celles véhiculées par inadvertance. L'ampleur des chiffres doit nous faire réagir, surtout qu'ils ne représentent que la pointe de l'iceberg. L'étude du Conseil des Académies canadiennes ne concerne qu'un sujet précis, l'hésitation vaccinale, pendant une période très circonscrite. Et elle n'en évalue que les coûts directs. Les retards dans les opérations provoqués par les hospitalisations évitables, par exemple, ne sont même pas comptabilisés. Or, de fausses informations sur toutes sortes de sujets circulent abondamment, amenant les individus à faire de mauvais choix, exacerbant le clivage des discours et compliquant les interventions publiques. Que faisons-nous contre cette menace? Compte tenu de ses impacts, vraiment pas assez. La lutte doit se dérouler en deux temps. Le premier implique un travail de longue haleine. Si la mésinformation fait mouche, c'est en grande partie parce qu'une trop grande part des citoyens a perdu confiance dans les institutions, comme les gouvernements et les médias. Cette perte de confiance n'est pas toujours rationnelle. Il reste qu'un travail d'introspection s'impose. On voit trop souvent les politiciens attiser les divisions pour des raisons partisanes, un réflexe extrêmement dangereux. Même chose quand les médias choisissent de miser sur la polarisation et de laisser tomber les nuances. La solution passe aussi par l'éducation, en premier lieu à l'école. À plus court terme, il faut effectuer un travail ingrat et difficile, descendre dans les tranchées et combattre les fausses informations. Certains le font avec brio, du détecteur de rumeurs, de l'agence Science Presse, aux vérifications des faits, de la presse, en passant par les décrypteurs de Radio-Canada. Mais, malgré le rôle crucial qu'ils jouent, les grands médias ne rejoignent malheureusement pas la frange la plus radicale des mal informés. Depuis le début de la pandémie, l'un de ceux qui combattent la mésinformation avec le plus d'efficacité est Mathieu Nadeau-Vallée. Surnommé le « doc de TikTok », il intervient sur les réseaux sociaux et y combat les faussetés par les faits, encaissant les coups qui pleuvent invariablement quand on fréquente de tels terrains. Mathieu Nadeau-Vallée est un électron libre, ce qui lui donne l'avantage de ne pas être associé aux institutions frappées par la perte de confiance. Mais cette indépendance vient avec un revers. Même si sa page Facebook est gérée par une équipe de bénévoles, il reste un étudiant en médecine qui fait ce qu'il peut pendant ses temps libres. Face aux algorithmes conçus pour favoriser la propagation des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, le combat est donc bien inégal. Ce qui se rapproche le plus d'un effort concerté est l'initiative « La science d'abord » de l'Association canadienne des centres de sciences. On y trouve des capsules facilement partageables sur les réseaux sociaux, tant en français qu'en anglais. Certaines sont même traduites en farsi, en hindi et en d'autres langues. COVID-19, environnement, vaccin, santé mentale. Les sujets abordés sont nombreux et le contenu scientifique est révisé par un groupe d'experts. L'initiative implique de nombreuses organisations, dont les Instituts de recherche en santé du Canada, principal organisme subventionnaire fédéral de la recherche en santé. Voilà exactement le genre d'initiative qui doit recevoir plus de soutien et de diffusion. Le rapport montre aussi qu'il existe toute une science sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins quand vient le temps de rectifier les faits et de convaincre des gens. Cette science a aussi grand besoin d'être mieux connue et diffusée. Il n'y a pas une réponse unique à la mésinformation, mais la lutte doit être menée avec plus de moyens et de façon mieux coordonnée qu'actuellement. Comme l'affirme avec justesse le président du comité d'experts, Alex Himmelfarb, dans l'introduction du rapport, on ne peut espérer venir à bout des énormes défis qu'affrontent nos sociétés si on ne parvient même pas à s'entendre sur ce qui se passe. C'était une vraie riposte à la mésinformation, un texte de Philippe Mercure, paru le 5 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.